voix nue. Cette semaine, Marie-Laure Delorme me rencontre Jean-Pierre Elkabbach. Ce soir, une personnalité clivante.
Bonjour Jean-Pierre Elkabbach.
Bonjour.
Après avoir évoqué l'Algérie, le journalisme, le journalisme politique, votre passion pour la culture, on va parler de vous. Vous parlez de ce que vous avez fait, mais vous avez plus de mal à parler de ce que vous êtes. Vous êtes une personnalité, c'est le moins que l'on puisse dire, clivante. Quand on écoute les uns et les autres, du côté des défauts...
Oh là là.
Alors on va commencer par les qualités. Du côté des qualités... Extrêmement professionnel, créatif, cultivé, brillant, sur la brèche, faisant partie de ceux qui ont fait l'histoire de la radio et de la télévision.
Je ne peux pas démentir, même si ça me flatte, peut-être trop.
Alors on va arriver au défaut.
Oui, qui va être beaucoup plus long.
Orgueilleux, brutal, affectif, excessif, séducteur et toujours trop proche du pouvoir. Vous acceptez les compliments. Est-ce que vous acceptez les critiques, Jean-Pierre Elkabbach?
Je ne peux pas faire autrement, d'ailleurs. Et bien sûr que je les accepte. Je peux dire qu'elles m'ont toujours enrichi. Elles m'ont fait du bien. Mais j'en veux pas trop, mais suffisamment. Mais vous savez, je ne suis pas un moïste. Le moi, on m'a toujours appris que c'était ce petit tas de misère qui est haïssable. Et je vais vous dire autre chose, même si vous avez du mal à me croire. Longtemps, j'ai été mal à l'aise, maladroit, réservé... comme un pauvre, rongé par mes doutes à mon égard. Et je disais, je suis le prince de l'auto-insatisfaction ou de l'auto-dérision. Bon, mais c'est vrai que je n'ai pas fait appel à la psychanalyse. Peut-être que j'aurais dû, elle aurait eu du mal avec moi, hein, sans doute. Les psychanalystes, il y avait une bonne dose de travail pour eux. Mais j'ai lu beaucoup, Freud, Jones, Sandor, Ferenczi, je vous l'ai dit, Alfred Adler. Je me suis soigné par les livres. Et grâce à eux, j'ai acquis une certaine sérénité.
Arrogant et orgueilleux, ça revient sans arrêt, Jean-Pierre Elkabbach, parce que affectif, excessif, c'est sympathique. Arrogant et orgueilleux, moins, vous répondez quoi ?
Orgueilleux, moins orgueilleux. Disons impatient. Oui, impatient. Et encore, je mets de la patience dans mon impatience. Impatient, mais ni impulsif, ni colérique. C'est vrai que dans l'action... et quand il faut décider, je suis assez froid. C'est un des reproches qui m'a été fait souvent. J'essaie d'être à la hauteur de la fonction que j'exerce. Et je suis peut-être un peu dur. Bon, on peut me le reprocher. Mais on a pris pour de l'orgueil cette impatience. Mais parce que, j'ai peut-être eu l'occasion de vous dire, j'ai jamais accepté les clans, la discipline, la dépendance, les groupes, l'esprit communautaire... Et puis, j'y suis toujours attiré par ce qui me dépasse, par ce qui me grandit. Et toute ma vie, j'ai essayé de m'élever au-dessus de moi-même. Alors, quand j'étais étudiant et que mes amis intimes s'asseyaient au Café du Soufflot, près de la Sorbonne et du Panthéon, qui prenaient des heures leur café, jouaient aux cartes, moi, non, je ne pouvais pas. Quand j'étais pion, je passais mon temps à lire. Je demandais de la discipline chez les élèves, c'était surtout des filles, qu'elles la bouclent pendant que moi je lisais. C'est là comme ça que j'ai lu Henri Allègre, La question, des tas de livres que j'ai en mémoire. Non, c'est comme ça. Puis, c'est vrai que peut-être je suis fier en pensant d'où je viens. C'est comme un miracle que je sois là. Comme un miracle, j'ai rencontré en quelques heures Nicole Avril, qui avait resté presque un demi-siècle. C'est aberrant. Je suis fier d'où je viens, mais c'est humble parce que je connais l'immensité de mon ignorance. Et c'est à ça que je me mesure. Donc, en même temps, pour mieux me connaître, j'ai un problème avec le temps. Je cours après le temps. Parce qu'il doit être plein, le temps. Il doit être rempli. Enfin, je ne dis pas utile, mais il doit servir à m'enrichir ou peut-être à apporter quelque chose aux autres. Donc, je voudrais bien être comme beaucoup de gens, m'asseoir à la terrasse d'un café, regarder les autres... Boire une citronnade, une bière, un machin, je ne le fais pas. Sauf peut-être en vacances. Où là, je débranche et je lis. Point final.
Vous nous avez
donc orgueilleux, vous croyez? Non, pas orgueilleux.
Orgueilleux, oui.
Non. Non, parce que je n'ai pas conscience de ce que je suis ou ce que je suis devenu ou ce qu'on croit que je suis. Quand je dis on parle de moi, tout à l'heure j'étais avec le président de l'Assemblée nationale, il m'a raconté qu'il me regardait la télé, etc. Je lui dis mais arrêtez, donnez l'impression de parler de quelqu'un d'autre. Moi je sais avec quels doutes et quels espoirs je me suis levé ce matin. Je vais essayer d'être moins con que d'habitude. Je vais essayer. Bon, vous voyez, donc pas orgueilleux, je refuse. Mais enfin, si c'est comme ça, tant pis pour moi.
Vous nous avez parlé de votre femme, Nicole Avril, de votre fille, Emmanuelle Bach. Est-ce que parfois vous vous dites que vous avez trop sacrifié votre vie personnelle à votre vie professionnelle, ce que se disent beaucoup d'hommes qui ont beaucoup travaillé ?
Oui, un peu, au début, quand Emmanuelle était toute petite. Je voyageais, j'étais correspondant en Allemagne, à Toulouse, en Allemagne. Pour moi, le métier, c'était un absolu. Hein, je rencontre Nicole. Maintenant, je sais équilibrer davantage. Vous savez, j'ai beaucoup changé. Je crois, hein, avec le temps, c'est normal qu'on change. Mais moi, il y a une phrase de Claude Roy qui me définit bien tel que je suis peut-être aujourd'hui. Claude Roy écrit dans ses chroniques « Les rivages des jours ». J'ai couru longtemps pour me rattraper. J'avais beau m'essouffler, j'y arrivais pas. Et puis un jour, je me suis assis au bord de la route pour m'attendre. Et quand je suis passé, j'ai marché sans hâte à côté de moi, du même pas que moi. Depuis, je suis calme. Voilà, il y a un petit effort.
Vous êtes sûr que vous êtes calme, Jean-Pierre Elkabbach ?
Je suis toujours passionné et calme. Enfin, plus serein. Même avec une certaine distance dans la passion volcanique que je peux avoir dans certains cas.
Quand on vous connaît un tout petit peu, on sait que vous avez de l'humour. Ça passe pas du tout, en revanche, dans votre image publique.
Et qu'est-ce que vous voulez que je fasse ? Je vous ai raconté, quand j'ai voulu faire du théâtre, je voulais jouer au reste. Je voulais lire et dire des poèmes de Baudelaire. Je voulais être un tragédien. Et c'est vrai qu'on s'est dit, d'abord, il serait plutôt comique avec sa tronche. Et puis, comme j'avais pas les mollets d'un tragédien, je me suis dit, bon, c'est vrai qu'il vaut mieux renoncer. Parce que si je veux jouer avec une toge, etc., il vaut mieux que je change de métier. Et c'est pour ça que j'ai fait autre chose. Mais je peux pas vivre sans rigoler, sans humour. Mais je suis trop concentré dans le travail. Trop appliqué, trop. Je prépare une interview, vous pouvez pas imaginer comment. Je dois tout savoir de l'interlocuteur pour qu'il ne me mène pas en bateau. Donc, et quand je suis là, je suis concentré pour qu'il dise le plus de choses, qu'il répète pas ce qu'il a dit avant. Donc, je suis pas toujours drôle. Mais si on regarde les bibliothèques Médicis, si on regarde quelques interviews que j'ai fait d'écrivains, de philosophes, on voit de choses que je sais rire et que je sais admirer. Je ne peux pas vivre si je n'admire pas et si je n'aime pas. Et par intuition, des gens avec lesquels je m'entends et que j'aime et que je ferai tout pour eux. Et d'autres, bon, ils me sont indifférents. Et vous voyez, c'est la vie.
Le regard de votre père, hein, mort quand vous aviez 12 ans, il a été là tout au long de votre vie ou non ?
Oui, j'ai dû dire que je ne l'avais pas tué, il était mort trop tôt pour moi, mais que ça avait tout rompu, tout changé, etc. Je pense beaucoup à Oran, je pense beaucoup à ma mère, et je pense aussi à mon père. Et au vœu que je lui ai fait sur la tombe, en voyant son nom, comme finalement il a eu droit à une tombe avec son nom, Charles Elkabbach. Comme j'allais tous les jours au cimetière, je regardais, et j'ai dit, j'essaierai d'être digne de ce nom, de le faire connaître. Et je pense que cette promesse, je l'ai un peu tenue. Et c'est une manière de dialoguer avec lui. Mais je ne suis pas pressé d'aller le rejoindre pour parler.
Vous avez été malade. Les journaux en ont fait l'écho. Qu'est-ce que vous a appris la maladie, si la maladie vous a appris quelque chose?
Évidemment. J'ai eu d'un seul coup un mal, naturellement imprévisible, inattendu. Je faisais du sport. Je faisais à peu près 3000 abdominaux par jour, ce qui faisait rire tous mes amis, toute la journée. Et je n'avais rien senti. Et un jour, une douleur au ventre, à gauche. Et j'ai fait un scanner. Et on s'est aperçu que j'avais une masse de 8 kilos dans le ventre, là, et 13 centimètres. Et qu'il fallait me l'enlever. Qu'on pouvait ne pas me l'enlever, à ce moment-là, je mourrais. J'ai passé 10 jours en soins intensifs. Je suis resté un mois et demi à l'hôpital. Je ne pouvais pas lire, je ne pouvais pas regarder la télé, tout ça ne m'intéressait plus, ni lire les journaux. J'ai appris à marcher. J'ai appris à, réappris à respirer. J'ai appris à remanger des choses que j'adorais, que je ne voulais plus voir, ou dont je ne voulais plus entendre parler. J'ai tout réappris, petit à petit, jour après jour, grâce à des infirmières, à des aides-soignantes, à des médecins. Dimitri Tsanis, le chirurgien avec Sylvie Bonvoileau, j'ai tout réappris. Quand vous allez à la douche, vous qui êtes pudique, accompagné sur une chaise roulante par les infirmières, vous voyez la vie d'une autre manière. Alors ce que j'ai appris, c'est la douleur, la souffrance, la patience, la relativité et la solidarité. Et ça, je ne dis pas que ça vous change, parce que peut-être que je le portais en moi, mais de le vivre de cette manière, où vous côtoyez la mort, et vous voyez que dans la chambre d'à côté, en soins intensifs, vous avez une jeune fille de 17 ans qui a à peu près le même mal que vous, que notre malabar de 45 ans qui fait du rugby est en train de presque de mourir parce qu'il a un mal qui n'est pas le même que vous, mais qui y ressemble. Vous vous dites d'abord, ça atteint tout le monde. Il faut faire de la prévention médicale. Il faut essayer de se soigner le plus possible, faire attention à soi-même. Et puis, reconnaître le travail extraordinaire que font souvent, avec peu de moyens, ce qu'on appelle les personnels soignants. Et moi, je ne me suis pas enflammé au moment du Covid à leur égard, parce que je les aime et je les défendrai. Et je les défends depuis avant, mais depuis ce moment-là, encore d'une manière beaucoup plus forte. Et vous savez, je n'ai jamais voulu parler de ce qu'on appelle ma maladie, etc. Puisqu'on en est là, allons-y. On déballe tout.
Alors, on déballe.
Tant pis pour vous.
On déballe tout. Jean-Pierre Elkabbach et la religion. Alors, la religion, est-ce que c'est quelque chose d'important dans votre vie? Est-ce que vous aimez dialoguer avec...
Dieu.
Avec Dieu, avec les hommes de foi? Quel est votre rapport à la religion?
Deux choses, parce que c'est différent. Le rapport avec des éminentes personnalités du monde religieux et en même temps la foi. La religion, elle est pour moi de très peu de secours. Ma tolérance, naturellement, elle s'arrête devant l'intolérance des autres. Je ne suis ni croyant ni pratiquant. Je suis juif agnostique. Je verrai avec Dieu le moment venu. Mais j'ai toujours affirmé ma judéité. Je ne l'ai jamais cachée. J'aurais honte de la cacher. Je ne peux pas oublier qu'il y a 6 millions de Juifs qui sont morts gazés dans les camps de la mort et que nous devons porter la mémoire et ne jamais les oublier. Mais je ne suis pas obsédé par la religion, ni les cultes, ni les rites. Et je ne me définis pas par mes origines. Mais vous avez raison. Lors des moments d'épreuve et de doute, et même d'isolement, ceux qui ont su me redonner goût à la vie et qui ont donné un sens à la vie en dehors de Nicolas Avril sont des hommes d'église, de foi et de religion. Il y en a deux qui me reviennent en mémoire. En 1968, à Toulouse, Monseigneur Guyot, qui était, je ne peux pas dire un archevêque de gauche, mais qui comprenait 68, qui nous disait voilà comment il faut vivre, voilà les changements, voilà comment il faut bouleverser la société. Chaque samedi, j'allais prendre un thé chez lui. Et les sœurs venaient nous apporter le thé, les petits gâteaux. Monseigneur Guyot, il est mort, mais je lui rends hommage. Et l'autre, qui a été comme un fétiche, chaque fois que j'ai repris une émission, je l'ai invité. Il y avait lui et Raymond DeVos, dans des genres différents. Lui, j'avais besoin de lui. Et je l'ai toujours vu jusqu'à sa mort, c'est Monseigneur Lustiger. Tout le temps. Tout le temps. Quand j'avais un problème, j'allais discuter avec lui. J'allais me confier à lui. Je ne parlais pas tellement de religion. Je l'accompagnais à Auschwitz, comme avec Simone Veil et Jacques Chirac. J'ai vu l'endroit où sa mère est morte. Je l'ai vu s'agenouiller à la place où sa mère est morte. Je connaissais bien le problème des camps, etc. Et aujourd'hui, ou disons récemment, je vois assez souvent le grand rabbin de France, Haïm Korsia. L'intérêt, c'est de dialoguer avec lui. Parce qu'en plus, il explique le Talmud simplement. Et il l'accompagne toujours d'une blague ou d'une plaisanterie. C'est le grand rabbin qui vous parle du Talmud à la Woody Allen ou comme les Marx Brothers. Je vous jure, c'est comme ça. Et il a obtenu un fait auquel je ne m'attendais pas chez moi. Mon père est mort le jour du grand pardon, après avoir jeté une prière, qui s'appelle l'Aftara en juif, je ne sais pas ce que ça veut dire, mais qu'il a acheté. Il a lu le prophète Isaïe, en hébreu. Le grand rabbin est venu me dire un jour, est-ce que vous voulez venir dans ma synagogue, dire devant 400, 500 croyants, le texte de votre père? Je dis non, non, arrêtez, je ne suis pas croyant, je ne parle pas l'hébreu, je ne lis pas l'hébreu, je m'en fous. Peut-être ce jour-là, j'aurai un déjeuner, le jour de Kippour ou du jeûne. Je faisais un peu de provocation. Et ça ne m'intéresse pas. Il a insisté. Et il m'a dit, mais c'est le prophète Isaïe. J'ai dit, je ne connais pas celui-là, qui c'est. Il m'a apporté les textes. Et d'un seul coup, j'ai découvert que la parole d'Isaïe, elle était une parole d'aujourd'hui. Je ne veux pas me souvenir, mais en gros, il disait à ceux qui étaient là, les fidèles, mais arrêtez de vous pencher comme des roseaux, de faire semblant d'être attaché par la croyance et la foi, alors que vous passez votre temps dans la médisance, dans la futilité, que vous êtes jaloux du voisin, que vous ne faites pas assez pour vos parents, que vous faites pas... Et moi, je l'exploitais. Je leur ai dit, réveillez-vous, etc. Vous avez les migrants qui frappent à vos portes, vous avez de l'esclavage dans le monde. J'en ai profité. Et chaque année, sauf l'année dernière parce que j'étais malade, mais chaque année, le jour du grand pardon, à l'heure où mon père a lu sa prière et il est mort, je vais lire le texte de Isaïe en français. Et ça me permet de faire, poussé par Haïm Korsia, une sorte de leçon à travers le message de Isaïe. Mais je me déguise pas en prophète. Hein.
Quelles ont été les figures, les rencontres importantes de votre vie ? On est par exemple, on se parle dans le bureau du siège Lagardère. Est-ce que Jean-Luc Lagardère a été quelqu'un d'important pour vous ?
Il a eu un rôle très important. Il y a, dans le cadre de l'entreprise...
Il était qui, Jean-Luc Lagardère ?
Un créateur inouï, un innovateur, quelqu'un qui n'était pas abattu par les échecs. Très forte personnalité d'un grand caractère. Quand il animait les lundis, avenue Malakoff, les réunions de patrons, tout le monde tremblait, tout le monde essayait de donner le meilleur de lui-même. Quand il sortait pour aller un jour téléphoner, je l'ai vu une ou deux fois, ça, parce qu'il restait 4 heures avec toutes les équipes. Tout le monde recommençait à parler, quel qu'a été le chef, etc. Dès qu'il rentrait, il y avait le silence. Et on était attentifs. Pourquoi ? Et parce que pour moi, ça a été un modèle pour plus tard. C'est qu'il y avait les spécialistes des missiles, les spécialistes des fusées, les spécialistes des médias, etc. Et à chacun, il demandait ce qu'il pensait de l'autre. À moi, il me disait, tiens, qu'est-ce que vous pensez des missiles qu'on va envoyer ? Quel missile ? Je ne sais pas ce que c'est. Bon, donc j'ai visité les usines, les fabrications de missiles. Le type des missiles, il disait, la radio, qu'est-ce que vous pensez ? Comment on peut améliorer Europe 1 ? Donc tout le monde était mobilisé partout. Bon, il créait de l'adhésion autour de lui. La seule fois où je l'ai vu pleurer et s'éloigner pendant presque une semaine, c'est quand un des poulains, il avait une passion pour les chevaux, qu'il avait un poulain de 3 ans qui était... paraît-il, dessiner un avenir magnifique, a sauté les haies de l'endroit où il était, du haras. Il s'est fait heurter par un camion et il a fallu l'abattre. Il s'est enfermé, il a pleuré. Et on ne l'a plus vu pendant une semaine. Et en même temps, il n'a pas eu à un moment TF1, il a été abattu. Ses hommes autour de lui, je les ai vus là dans cette maison, complètement écrasés par l'échec. Il leur a dit, mais non, on va faire autre chose, vous inquiétez pas. Et c'était ça, il n'y avait pas des chèques. C'était, il est parti d'un petit noyau d'activité, puis il en a fait un empire. Voilà. Voilà. Et puis le deuxième homme, c'était Maurice Ulrich, qui a été patron président de Antenne 2 pendant quelques années, qui avait remplacé Marcel Julien. C'est un diplomate qui est arrivé du Quai d'Orsay. Vous ne connaissez pas. Et ce type a été un formidable président de la télévision. Il y avait des baronnies, Chancel, Claude Barma, Armand Jameau, les dossiers de l'écran, qui étaient là, qui tenaient la maison. Et Ulrich, très gentil avec eux. Peu à peu, au bout de 6 mois, il a enlevé tout le pouvoir. Et il l'a réparti autrement. Il a donné des chances à des jeunes. Et moi, je sais que j'étais le numéro 3 de l'équipe. Il y avait le directeur financier, puis moi, directeur de toute l'information, magazine, journaux, etc. De temps en temps, j'avais besoin d'argent. Le directeur financier disait non, je ne donne pas d'argent pour les équipes. Non, non, il ne faut pas aller en reportage en Chine. Non, non, on n'ira pas. Et Maurice Ulrich l'appelait et lui disait Xavier, il s'appelait Xavier Larrère. Laissez-les, donnez-les. Allez, c'est lui qui a aidé aussi Claude Lanzmann à finir Shoah. Il a mis 9 ans à faire Shoah. Et chaque fois, il venait de taper le service public. Et des gens lui disaient, non, non, ça suffit, 5 ans, 6 ans. Et Ulrich disait, non, peut-être qu'il construit une œuvre. Il m'a appris ça, il m'a appris le calme et la gestion calme et humaine des hommes. Voilà des gens qui m'ont un peu marqué. Puis, je vous ai dit, Gisèle Halimi, avec beaucoup de tensions, de disputes. Elle était plus une amie de ma femme qui était proche d'elle jusqu'au dernier moment. On l'a vue, on allait dîner avec elle. Moi, j'avais des bagarres politiques avec elle. Mais je l'adorais parce que je l'adorais. Et elle m'énervait souvent, comme je devais l'énerver, parce qu'il y avait des accrochages tout le temps. Un jour, un soir, on est allé dîner, invité par elle, chacun son tour invité l'autre. Et elle et son mari, Claude Faux, qui est un type extraordinaire aussi. J'étais pas assis qu'elle m'engueulait sur mes rapports avec Sarkozy. Le dîner avait mal tourné. Elle avait failli même s'arrêter en route. Et heureusement qu'il y avait eu Nicole Avril et elle qui se sont calmées ou qui m'ont calmé. Voilà. Et c'est des gens qui ont marqué, comme oui, si Simone Veil.
Et on aura eu de cesse, Jean-Pierre Alcabache, de vous reprocher vos rapports avec les hommes politiques. Ça reviendra, mais sans arrêt. Des liens trop proches, des liens d'amitié, des liens de proximité.
Non. Et d'ailleurs, pourquoi pas ? Ce sont des bandits, des voleurs. Ils sont arrivés au pouvoir. Ah oui, certains. Les corrompus, il faut les sortir. Avec les corrompus, je n'ai pas de relation particulière. Sauf un, peut-être. Je regrette pour lui. Et puis maintenant, il souffre à cause d'un mensonge d'État qui était Jérôme Cahuzac. C'était un type très, très bien, de grande qualité, qu'on est en train de tuer à petit feu et qui ne mérite pas, après avoir fait ce qu'il a fait, sa peine, etc., qui ne mérite pas de ne plus pouvoir exercer son métier de médecin. Bon, ça, c'est autre
chose.
Vous
pensez qu'on est passé d'un excès à l'autre ?
Oui, dans certains cas, oui. Bien sûr. Je peux dire, on met en prison, là, il n'y a pas longtemps, 3 policiers. Ils le méritaient, 3 policiers. Mais en même temps, on a identifié les black box qui viennent casser les boutiques, etc. On les a identifiés, on sait qui c'est. Et on les arrête pas. Qu'est-ce que fait la police alors ? Bon, je veux dire, il faut un peu plus de mesure et d'équilibre. Bon, j'ai dit, pourquoi pas les hommes de pouvoir ? Mais je vous l'ai dit, c'est le pouvoir, c'est ce qui permet de transformer une société, qui permet d'agir. Vous voyez, bon. Vous m'avez parlé de religion. Mais je voudrais dire aussi... comme j'ai dit que j'étais juif, il m'est arrivé de souffrir l'antisémitisme. Et je ne veux pas ne pas le dire. À Oran, peut-être pas tellement.
Vous en parlez peu, pourtant.
Vous voulez que je crie sur la place publique ah ben, les antisémites, je les combats. Je combats les racistes.
Non, vous parlez peu du fait d'avoir souffert de l'antisémitisme.
Parce qu'aujourd'hui, il paraît que je dois me déshabiller. Me démasquer.
C'est le but.
Je sais pas, je vous dis ce que je ne disais pas. Je dis que quand j'ai commencé le métier, il paraît qu'il valait mieux pas s'appeler Alcabache. Quand il y avait des promotions, même professionnelles, j'ai obtenu beaucoup plus tard ce que d'autres avaient obtenu plus vite que moi et qui étaient moins bons et qui ont disparu de la scène. Bon, c'est pour ces raisons que j'ai en horreur les antisémites. Et il y en a encore. Et d'ailleurs, de plus en plus. Et il faut aujourd'hui les combattre. Oui, partout où ils sont, les racistes, les misogynes, les homophobes, je les combats pour leur haine, leur jalousie, leur goût de la délation. Et si, je ne peux pas dire que j'ai des haines, mais peut-être à leur égard, oui, parce qu'il faut un tort fou à la société et aux hommes. Mais jamais j'aurais trouvé, j'ai envie de dire, de la bassesse et d'indignité à me servir de mes origines et de ma religion, qui appartiennent à mon univers privé, pour expliquer ou mon destin ou ma vie. J'ai jamais prétendu que mes déboires en 1968, en 1974, en 1981, en 1996 avaient lieu parce que j'étais juif.
Vous avez 83 ans, Jean-Pierre Alcabache. Vous avez des regrets, des remords, hein, ou ça ne fait pas partie de votre vie ?
Mon plus grand regret, c'est que la vie s'arrête trop vite. Mon plus grand regret, j'ai envie de dire, déjà, ça passe vite. Vous me dites 83 ans, moi je me dis presque 38 ans, je le mets à l'envers. En dehors du moment où je me voyais dans un cercueil l'année dernière, Et maintenant, il y a une sorte de résurrection qui me donne encore la saveur de chaque instant de la vie, même si je dois travailler, même si je dois dire. Mais je me dis, on a une chance d'être là, de vivre, hors des regrets pour tout ce que je n'ai pas fait, pour tous les gens que j'ai dû blesser, humilier. Il n'y en a pas beaucoup. Pour tous les êtres que j'ai peut-être un peu secoués. Pour tous ceux qui m'ont fait du mal, aussi. Voilà, des remords, je ne sais pas ce que c'est, mais des regrets. Voilà.
Je vais vous poser la même question que celle que j'avais posée dans le cadre d'un avoué nu à Carla Bruni-Sarkozy. Pierre Assouline a écrit un livre sur le Rosebud qui définit comme ce petit rien qui nous trahit en nous dévoilant aux autres. Ça peut être un mot, un vêtement, un livre, une page, un trait de caractère qui vous trahit. Quel serait votre Rosebud, Jean-Pierre Elkabbach ?
Vous savez, vous me faites beaucoup réfléchir, parce que c'est très difficile de trouver ou un objet ou un sentiment. Eh bien, moi, ça sera le rouge, la couleur rouge. Parce qu'elle a une histoire avec moi. J'ai cherché, je me suis dit, oui, le rouge. J'avais peur du rouge dans mon enfance. On cachait même le drapeau français parce qu'il y avait du rouge. Je détestais les tomates parce qu'elles étaient rouges. Tout ce qui était fruits rouges, je le détestais. J'avais peur du rouge. Mais la peur physique. Je me sauvais quand il y avait du rouge. Je me suis guéri. Puis le rouge, c'est le sang de la vie. Donc j'ai compris que c'était important, autant, le rouge. Le sang, c'est les couleurs d'un coucher de soleil, le rouge.
La passion.
C'est la passion. C'est les robes rouges de Nicolas Avril. C'est la servante écarlate. C'est, tiens, mon stylo, quelle est la couleur ? Il est rouge. Il est rouge. Et donc, je me suis réconcilié avec la couleur rouge, qui est devenue comme une sorte de fétiche. Mais moi, je voudrais dire aussi quelque chose, si on doit terminer, c'est ça ? Je voudrais dire, pour terminer, j'ai repensé à Régis Debray. Il conclut son dernier livre, excellent, par cette phrase « J'ai fait mon temps ». Mais je n'ai rien fait du temps qui m'a fait. Moi, je le reprendrai et je dirai, je fais encore mon temps, car c'est pas encore tout à fait fini. J'ai fait le mieux possible du temps qui m'a fait. C'est une goutte dans l'océan de l'humanité, mais il reste en moi une dose de confiance et d'optimisme, même si c'est un optimisme sans illusion, je reste incorrigible.
Merci Jean-Pierre Elkabbach.
Merci à vous.
Fin de cette rencontre de Marie-Laure Delorme avec Jean-Pierre Elkabbach. À voix nue. Réalisation Marie Placet. Prise de son Arthur Gerbeau, Raymond Albuy. Attaché de production, Daphné Abgral. Coordination, Sandrine Trainer. À voix nue se réécoute et ce podcast sur franceculture.fr et l'appli Radio France.